Bonjour à toutes et à tous, Radio FM Plus sort de sa zone de confort. Je suis dans le jardin du Moko avec mes deux invités, alors vous allez certainement entendre quelques petits bruits annexes et peut-être même l'orage qui semble s'approcher, croisons les doigts. Aujourd'hui j'ai donc avec moi deux des responsables, on va dire, d'une exposition qui s'appelle Éprouver l'inconnu. C'est une exposition qui se déroule au Moko, à Montpellier, Moko Centre d'art contemporain. Et on peut se poser un peu la question de justement ce rapport qu'il peut y avoir dans Éprouver l'inconnu entre la science et les arts, bien que de plus en plus, ces expositions émergent comme sciences et arts, environnement et art. On sent qu'il y a une ouverture de l'art et même une ouverture des scientifiques vers l'art. Avec moi aujourd'hui donc Pauline Faure qui est co-commissaire de l'exposition. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et Gérald Champ qui lui est professeur d'université, praticien hospitalier, anesthésiste je crois, et responsable du patrimoine historique de l'université de Montpellier. J'espère que je ne me trompe pas.
Anesthésiste réanimateur. Bonjour.
On va essayer de ne pas avoir de défaillance tout de suite, mais en tout cas Si ça se produit, eh bien nous aurons quelqu'un pour nous sortir d'affaire. Donc je vais commencer peut-être par Pauline. J'ai dit que vous étiez co-commissaire de cette exposition. Qu'est-ce qu'un commissaire en fait? Quelle est sa fonction?
Oui, alors donc sur cette exposition, on a travaillé avec Anya Harrison, Alexis Loisel-Montembeau et Denise Yoruc. C'est une équipe de commissaires. Le commissaire d'une exposition, c'est celui qui va à la fois en formuler le concept, enfin l'idée, le propos et surtout l'intention, et qui va essayer de la mettre en œuvre de A à Z avec une équipe qui va pouvoir travailler ensuite avec toutes les équipes du MOCO, que ce soit les équipes techniques, de communication, d'administration et de médiation. Et donc ça va partir de comment définir un parcours qui va participer à l'intention pour le visiteur, donc qu'on veut rendre sensible auprès d'un public. Donc c'est jamais un travail en autarcie. Et puis après, ben, c'est très opérationnel et logistique. C'est choisir les œuvres, les demander en prêt, les acheminer jusqu'au MOCO, procéder au constat d'état afin de garantir la sécurité des œuvres et leur conservation, et puis les installer dans un parcours que nous avons défini au préalable. Voilà, et puis accompagner ensuite l'exposition de divers textes qui vont accompagner les œuvres, que ce soit purement signalétique ou bien des cartels qui vont donner un aspect peut-être pédagogique, mais en tout cas qui va permettre aux visiteurs de se familiariser avec le propos de l'exposition.
On reviendra sur chacun de ces éléments plus longuement puisque c'est un petit peu l'objet effectivement de cette interview. Moi je me posais la question, alors c'est une question un peu bête, mais je pense que plein d'auditeurs se la posent. Est-ce qu'il y a une différence, alors c'est un peu technique, entre un curateur et entre un commissaire d'expo que vous êtes?
Alors le curateur, c'est le terme anglo-saxon pour commissaire d'exposition, qui est d'ailleurs à la fois plus joli et pas très joli. Le son n'est pas très agréable, mais en fait, curator, ça veut dire celui qui prend soin, puisque ça vient du latin, curare, prendre soin. Donc c'est juste une différence anglo-saxon-français, mais c'est aussi parce que c'est pas tout à fait le même regard porté sur la profession. Je pense qu'en France, il y a beaucoup encore une sorte de sacralisation du domaine de l'art, alors que les anglo-saxons ont une approche plus simple en fait de l'art. Donc le curateur reprend à la fois le concept, l'intention, la formulation du propos. Et après, il y a des production curators, il y a des scientific curators. Enfin, on peut décliner comme ça les différentes fonctions d'un commissaire ou d'un curateur en les précisant, parce que les termes, que ce soit curateur ou commissaire, sont en fait déclinables à souhait selon les institutions, et vous ne verrez pas un commissaire qui a exactement le même rôle dans une institution que dans une autre.
Est-ce que dès le départ, c'est une exposition que vous comptiez monter avec des scientifiques, avec des médecins, en puisant quelque part dans les archives de l'université, ou est-ce que c'est une idée qui vous est venue et vous vous êtes dit on va associer, et donc vous étiez demandeur par rapport à la faculté, je veux dire?
Alors la première idée était de faire une exposition autour de art et science, parce que ça s'inscrit dans une politique d'exposition du MOCO qui est de faire des grandes expositions une fois par an qui vont regrouper une thématique large afin de pouvoir se décliner sur les deux lieux. Donc là effectivement on a éprouvé l'inconnu ici au MOCO, mais on a aussi à la Panacée deux expositions monographiques consacrées à Ivana Basic et à Pierre Unal Brunet. Donc deux expositions monographiques, c'est vraiment un focus sur l'œuvre de deux artistes qui ont des quelque chose de scientifique dans leur démarche, mais de façon continue, donc au travers de toutes leurs œuvres. Et donc après, on avait cette idée, après Art et littérature, qu'on avait fait l'année dernière, et Immortel, qui était consacré à la scène de la peinture figurative française dans les années 90, ici, on avait envie d'aborder ce thème de art et science. Donc avant de demander le soutien aux scientifiques, il a fallu que nous, l'équipe de commissariat, réfléchissons à ce qu'on voulait montrer. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un thème qui se décline de plus en plus. Et donc, il n'était pas question de faire une redite. Donc, il a fallu d'abord se pencher sur ce qui avait été fait. Beaucoup tourné autour de art et technologie, de la robotique, de la botanique. Donc, très vite, on s'est dit, non, on n'a pas envie de faire une exposition par discipline. Ensuite, on a essayé de formuler ce qui pouvait être commun aux scientifiques et aux artistes, et à partir du moment où on a défini que l'exposition tournerait autour de cette question du commun dans la démarche, peut-être plutôt que dans l'outil, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des outils technologiques, des outils de médecine, mais plutôt une démarche, une recherche qui est commune. À ce moment-là, on a constitué un comité scientifique afin d'être épaulé et, je dirais, légitimé aussi dans cette démarche, parce que c'était très important pour nous d'associer les scientifiques à ce qu'on allait faire, parce que ce n'est pas notre domaine d'expertise du tout et qu'il fallait absolument que le monde scientifique trouve également un intérêt dans cette démarche. Voilà.
Est-ce que vous avez été inspiré par le monde scientifique, je veux dire par là? Est-ce que vous avez d'abord choisi des œuvres et ensuite vous avez cherché ce qui pouvait aller avec ces œuvres en termes de science? Ou est-ce que certaines propositions qui vous ont été faites par la faculté vous ont permis de vous orienter vers certains artistes plus particulièrement?
Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout aussi cloisonné que ça. Dans le comité scientifique, en fait, on a commencé à parler des œuvres qu'on avait repérées. Et ils ne nous ont pas du tout de suite parlé des œuvres de leur collection, parce que l'intérêt du comité scientifique, c'était bien au-delà des collections scientifiques, si vous voulez. C'était vraiment se questionner sur ce qu'il y avait de commun entre ces deux mondes qu'on pense parfois cloisonnés, alors qu'ils sont extrêmement poreux. Et donc, les premiers échanges, je pense, hein, il me semble, Gérald, avec le comité scientifique, étaient plus sur des suggestions d'artistes de la part des scientifiques que sur des collections patrimoniales et universitaires.
Peut-être un petit mot là-dessus, Gérald ?
Alors, la première réunion, c'était un brainstorming entre les curatrices, le curateur et les enseignants-chercheurs et chercheurs. Et ce brainstorming, c'était une interrogation sur ce qu'était l'art et la science quels étaient leurs points communs. Et aussi, c'était un partage d'expériences par rapport aux différentes expositions qu'on avait pu voir en tant que scientifique amateur d'art. Et c'était un petit tour de la planète par rapport à ce qui se faisait en matière d'art et science et d'art contemporain. C'était vraiment plutôt cette image de brainstorming qui m'est venue avec beaucoup d'idées issues de la méthode artistique et de la méthode scientifique que les curatrices avaient préparées et sur lesquelles on a pu rebondir en tant que scientifique. C'était le point de départ du projet qui allait se nourrir au fil des mois, avec des idées qui sont apparues au fil des mois, un peu de manière expérimentale, comme lorsqu'on réfléchit à un nouveau protocole, une nouvelle technique, et qu'elle prend une certaine dimension et du sens tout au long du temps, quoi.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition,
1.
And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's time to
tiptoe, I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Dans Il n'est jamais trop d'art, aujourd'hui nous consacrons presque une heure à l'exposition Éprouver l'inconnu. C'est une exposition qui a été montée entre curateurs donc du MOCO et scientifiques. Un gros travail qui a demandé du temps et c'est Pauline Faure qui nous répond sur cette question.
Nous, on y réfléchit depuis je pense un peu plus d'un an, et demi. C'est important aussi cette phase de réflexion, de mûrissement absolument, parce qu'on a dans un coin de la tête. Et du coup, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, quand on regarde les artistes, les galeries, les expos, on sait qu'on est attentif à ça en arrière-fond, quoi, en background. Mais après, je crois que notre premier comité scientifique s'est tenu fin mai ou début juin. Et c'est là vraiment qu'on a commencé à travailler. Et donc tout l'aspect conception, choix des œuvres, etc., ça fait donc de mai à octobre. Et après, à partir d'octobre, on s'est mis en ordre de marche pour vraiment une préparation plus de logistique et opérationnelle.
Côté scientifique et côté faculté, comment vous avez abordé cette future exposition quand on vous a fait cette proposition en disant voilà, on aimerait faire ça, comment vous pouvez participer, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, qu'est-ce qu'on peut échanger, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?
Le monde scientifique, il a été aspiré par le monde artistique. Hein. C'était une de vos premières questions. Est-ce que vous avez été aspiré par les scientifiques? C'est plutôt l'inverse. On a été complètement happé par le projet et on a pu observer cette sélection d'œuvres d'art contemporain, mais aussi de sélection des objets, des collections patrimoniales de l'université. Et on a suivi construit cette exposition en délivrant un regard, une réflexion par à toutes ces œuvres, qu'elles soient contemporaines ou de collection. On a vraiment été aspiré par le MoCo à l'intérieur de cet hôtel des collections et c'était un cadeau, en fait, un cadeau fait aux scientifiques de pouvoir sortir de leur bulle et de prendre du recul par rapport non seulement aux objets des collections universitaires, mais aussi de l'art contemporain. Donc c'était une belle collaboration.
Vous écoutez toujours Radio FM+, nous sommes toujours dans l'émission Il n'est jamais trop d'art et nous parlons toujours de l'exposition qui se déroule en ce moment au MoCo, Éprouver l'inconnu, avec Pauline Faure, co-commissaire de l'exposition, et Gérald Schank, qui est professeur d'université, praticien hospitalier, anesthésiste, réanimateur, responsable du patrimoine historique de l'université de Montpellier. Donc cette exposition qui rassemble à la fois des éléments d'archives, objets et divers documents venant de l'université de la faculté de Montpellier et des œuvres d'artistes donc, qui ont été choisies par les responsables du MoCo. Cette exposition associe aussi les médecins d'aujourd'hui aux artistes d'aujourd'hui au travers de cartels. Alors est-ce que c'était une idée de départ ? Est-ce que c'est une idée qui est venue quand vous avez conçu l'exposition mais plutôt en cours de réflexion ?
Je crois que c'est arrivé au deuxième comité scientifique où là on avait vraiment une idée plus élaborée de la liste d'œuvres, etc. Et où on avait envie de travailler ensemble véritablement. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit juste quelque chose qui soit en coulisses, mais on a voulu que cette collaboration soit visible par le public parce qu'on était convaincus que ça ne pouvait être qu'enrichissant pour chacun de nous et pour le public. Et c'était aussi dans la volonté même, au départ de l'exposition, de ne pas imposer de hiérarchie entre les regards posés sur, que ce soit les œuvres ou les collections scientifiques. C'est-à-dire que tout point de vue est bon à entendre. Parce que c'est vraiment ça, la richesse de l'art, en tout cas, d'autoriser d'avoir un point de vue quelconque sur ce qu'on regarde. Et qui sera forcément individuel, puisque chacun a sa propre sensibilité. Donc ce refus de hiérarchie, qui n'est pas de position de sachant et d'ignorant, on voulait aussi le mettre en avant. Et donc quand on a cherché à imaginer quel pouvait être le résultat concret de nos partages et de notre collaboration, est venue l'idée de visite croisée, Donc pendant le temps de l'exposition, il va y avoir notamment des visites aux droguiers qui sont organisées. Et puis assez vite, donc, cette histoire de cartel développé, sachant que nous, dans les expositions en général, le public n'est pas toujours guidé par un conférencier. Et à ce moment-là, on aime mettre à disposition un certain nombre d'informations dans le livret du visiteur, mais aussi dans les cartels qui décrivent l'œuvre de façon synthétique et dans lesquels on va développer un peu le regard du curateur sur l'œuvre. Là, on leur a demandé si éventuellement ils seraient d'accord pour écrire sur les œuvres. Et là, je vais passer la parole à Gérald.
Oui, alors on entend un orage, on est sous l'orage, mais après tout, ça fait partie de la vie et du quotidien du printemps. Donc Gérald, par rapport à ces cartels, vous avez eu votre cartel à écrire au regard d'une œuvre qu'on vous a soumise. Donc on a toujours un peu du mal à imaginer les scientifiques en train d'écrire. Mais là, l'idée, c'était de faire un commentaire d'une certaine façon, de décrire des sentiments au regard d'une œuvre.
Oui, c'est assez complexe, finalement, même si l'idée d'écrire des cartels est venue tout à fait naturellement lors d'un brainstorming qui est donc Pauline appelle le comité scientifique. J'appelle ça le brainstorming, l'espèce de bouillonnement d'idées où le MOCO, les curatrices, avaient déjà réfléchi à peu près à cette idée-là et les scientifiques, ils n'ont pas eu besoin de nous convaincre parce qu'on a émis cette idée-là quasiment aussi spontanément. Donc on s'est rejoint sur cette ligne-là et ce double regard, il est passionnant à plusieurs égards. D'abord, c'est vrai, il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs vérités, plusieurs points de vue. Un point de vue scientifique, mais lorsqu'on évoque le tube digestif en bronze qui ne ressemble pas au vrai tube digestif, c'est pas qui a raison. L'intention de l'artiste, elle est louable en soi. Et le regard scientifique est aussi louable puisque il explique au plus grand nombre ce qu'est un intestin et ce qui est intéressant en soi. Donc les deux regards sont complémentaires.
Comme vous l'avez compris, nous sommes sous la pluie, pluie qui redouble et qui finalement nous contraint à rentrer à l'intérieur du café du MOCO pour poursuivre cette conversation avec Gérald Schank et Pauline Faure sur cette exposition effectivement tout à fait étonnante qui se déroule au MOCO pour quelques semaines. Maintenant qu'on s'est mis un peu à l'abri, on va pouvoir parler plus calmement.
On disait par rapport au cartel qu'il n'y a pas de vérité absolue puisque la vérité est intrinsèquement liée au regard, au type de regard, donc un regard analytique, fonctionnel, anatomique, structurel ou alors une évocation associée à cette anatomie qui est la vision de l'artiste et son ressenti. Par conséquent, ça rejoint aussi l'idée que l'anatomie est un peu plus loin. La médecine et la science en général n'appartiennent pas aux médecins ou aux scientifiques. Pourquoi ? Parce que ce serait d'abord complètement prétentieux et hors sujet. L'anatomie, elle appartient à soi d'abord et on peut explorer son anatomie, découvrir l'anatomie. C'est même recommandé médicalement de surveiller les grains de beauté et même d'aider par exemple un ami ou son conjoint, sa conjointe à examiner des parties intimes. C'est ce qu'on appelle l'autodiagnostic. Et cette anatomie et l'idée qu'on s'en fait, elle appartient à chacune et chacun et c'est tout à fait bien représenté par une œuvre d'un artiste tchèque qui dessine comment il perçoit son anatomie. Alors c'est pas forcément un dessin très réaliste au niveau anatomique, encore que c'est assez fidèle, mais surtout il va par son trait accentuer certaines structures et effacer l'enveloppe corporelle pour encore mieux signifier ce qu'il voit et ce qu'il perçoit de l'intérieur de son corps. Et la médecine, pareil, n'appartient pas qu'aux médecins. Les patients, ce sont eux qui décident de leur thérapeutique. C'est une question classique qu'on pose en QCM à nos étudiants à la faculté. Lorsqu'un patient a un cancer, qui décide du protocole de radio, chimiothérapie et chirurgie ? Est-ce que c'est l'oncologue ? Est-ce que c'est donc l'oncologue, c'est le cancérologue ? Est-ce que c'est le chirurgien ? Est-ce que c'est la réanimation de concertation pluridisciplinaire ou est-ce que c'est le patient ? Et c'est le patient qui décide. Donc finalement, la médecine médecine, elle doit être partagée par des personnes qui l'étudient, mais au plus grand nombre. Et c'est aussi ce projet qui est à la base de l'exposition Art et Science, c'est la diffusion de la culture scientifique au plus grand nombre. Et au-delà de la diffusion de la culture, c'est la diffusion de ce qu'est une connaissance et de ce qu'est une réflexion. Cette expo a la vocation à ce que le grand public se questionne et ne prenne pas pour argent comptant juste un message d'un scientifique pur et dur qui est voilà, le tube digestif ça doit être rose et on n'a pas le droit de le faire marron. Ça voudrait dire qu'il y a un art est interdit. Il y a une exposition à l'art dégénéré en ce moment à Paris qui fait écho à un certain totalitarisme dans la pensée. Et cette expo, elle dit tout le contraire du totalitarisme. Elle dit questionnez-vous et partagez.
Dans Il n'est jamais trop d'art, aujourd'hui, nous sommes toujours avec Gérald Schank, qui représente la faculté, et Pauline Faure, qui, elle, représente le MOCO, et qui, tous deux, ont été les chevilles ouvrières d'une exposition en cours, toujours au MOCO, bien sûr, qui s'appelle Éprouver l'inconnu. Cette exposition associe art et science, dont les points communs sont souvent insoupçonnés. Et pourtant, je vous assure, il y en a. Commun aussi aux arts et aux sciences, c'est l'évolution des technologies. Là, par exemple, il y a une grande œuvre, et je vais aller vers Pauline, une grande œuvre où une artiste a fait appel à des scientifiques pour pouvoir réaliser son œuvre, c'est-à-dire réaliser ce qu'elle avait dans la tête, mais ça ne passait que par des spécialistes effectivement du numérique pour pouvoir finaliser ce qu'elle avait dans la tête.
C'est vrai qu'en art contemporain, la question du médium a beaucoup évolué. Et la question du numérique, c'est pas l'apanage du scientifique. Enfin, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui utilisent le numérique. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas le médium qui fait l'artiste et que de toute façon, l'artiste, il infuse de son questionnement et de sa vision, quel que soit l'outil qu'il va utiliser. Je pense que vous faites allusion à l'œuvre de Joey Holder, qui est une des trois productions qui a été réalisée pour l'exposition, avec celle de Roy Conkey et de Morgan Courtois. Joey Holder, c'est une artiste britannique qui elle-même a fait des études scientifiques et qui s'intéresse beaucoup aux mondes inconnus. Et là, en l'occurrence, ce sera sur le monde des abysses, le monde des fonds marins. Et dans cette œuvre, elle a effectivement créé des images en modélisation 3D, mais elle a aussi mêlé des images purement scientifiques qui proviennent de la du stand d'observation britannique des fonds marins en Arctique, je crois, pour nous donner à voir cette espèce de salle de contrôle désertée qui aurait été occupée sans doute par des humains pour observer ce qui se passe dans les fonds marins. Et on s'aperçoit sur les écrans que le fond marin recèle de créatures plus improbables les unes que les autres. C'est quelque chose qui est à la fois fictionnel, mais qui s'inscrit dans une réalité, puisqu'il existe des robots qui vont observer les fonds marins à des profondeurs incroyables. Et donc c'est l'œuvre, elle est là pour nous faire sentir et nous faire vivre avec quelque chose qui existe, qui pourrait se développer, qu'on pourrait imaginer. Et voilà, et c'est aussi tout l'imaginaire de l'artiste, tout l'imaginaire des créatures des fonds marins avec le kraken. L'humanité, elle se nourrit à la fois de choses fantastiques, spéculées, spéculatives, imaginées, et de réalité, et c'est toute l'histoire comme ça. Il y a une porosité en fait entre les domaines, et c'est pas le scientifique sa vérité, l'artistique sa vérité, c'est on marche tous ensemble en fait, c'est ça l'humanité.
Pour rejoindre ce que vous dites, j'ai été très marquée par une Vénus qui n'est pas une Vénus, mais qui est par exemple le cerveau d'une grenouille. C'est complètement dingue ça.
D'une tortue.
Ah, d'une tortue.
Et ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est le plaisir absolu qu'on a pris à sélectionner les œuvres dans les collections patrimoniales de l'université. Parce que nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a eu accès à des bases de données. Et on a eu, comme l'a dit Gérald, une espèce de carte blanche. Même si c'était compliqué pour les équipes de l'université à organiser, parce que ça s'est fait dans un temps très court, et le temps de la conservation d'objets de ce type-là, qui sont classés monuments historiques pour la plupart, est bien plus long. Mais donc, quand on regardait comme ça les images, en voyant les formes, nous, ça nous faisait penser forcément soit à des œuvres, soit à des objets. Et donc, les rapprochements étaient évidents. Et en plus, il se trouve que ce cerveau de tortue, qui ressemble à une Vénus paléolithique, était aussi ce qui était mangé par des espèces de chamans, parce qu'il y a des propriétés hallucinatoires, hypnotiques. Et que donc c'est aussi l'ouverture vers les rêves. Donc ce cerveau qui ressemble à une Vénus, c'est l'ouverture vers les rêves. Enfin, voilà, tout ça fonctionne. Et du coup, notre rôle, c'est d'emmener le visiteur et de lui faire part d'un récit qui rentre dans une histoire. Et donc on aime bien faire des points de rencontre. Et dans l'exposition, on a joué beaucoup sur la sérendipité, en fait, sur le fait que la curiosité fait rebondir d'un sujet à l'autre et que les liens se créent et ça avance comme ça. On ne sait pas trop où on va, mais on y va et on demande aux visiteurs de venir avec nous. Et donc là, à côté du cerveau de tortue, il y a une œuvre de Hene Yu, qui est une artiste américano-coréenne, qui s'appelle La naissance de Vénus. Et donc, oui, le cerveau de tortue, nous faisons danser la Vénus, on a mis la Vénus, voilà.
Alors là, la transition est toute trouvée. Quel est le retour du public? Là, vous avez maintenant plusieurs semaines d'exposition, donc de nombreuses personnes ont pu visiter. Il y a eu des périodes d'ailleurs de gratuité. Il y a évidemment toute une médiation autour de cette exposition. Quel est le retour des gens, du public, des regardeurs?
Déjà, il vient assez nombreux, puisque là, on a ouvert il y a un peu plus d'un mois, 1 mois et 10 jours, et on est à peu près à 10 200 visiteurs, quelque chose comme ça. Les groupes, les réservations de groupes, hein, voilà, il y a des scolaires. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire des visites. Donc je pense que c'est plutôt positif, même si moi, maintenant je suis dans les bureaux, je n'ai plus le retour direct des visiteurs, parce que je pense que ça a peut-être été déroutant à un moment donné de rentrer dans l'exposition. L'effort a été fait quand même d'accompagner le visiteur avec des textes, avec la présence des médiateurs quand c'est en groupe, par une poursuite aussi, puisque l'exposition l'exposition, elle continue à vivre au travers d'ateliers spécifiques, de visites à l'extérieur, comme j'ai dit, le droguier, de conférences. Et donc, j'espère qu'effectivement, ça permettra aux visiteurs de désacraliser à la fois l'art et la science.
Et dernière question, je vais vous relâcher, mais elle ira peut-être vers les deux. Je vais peut-être commencer par Monsieur Schank. Quelles sont les retombées, le rayonnement de cette exposition dans la presse scientifique, par exemple? Parce que, évidemment, art et science, donc les scientifiques sont concernés, on l'a bien compris, au premier plan.
C'est une bonne question. Je ne suis pas certain que la presse vraiment spécialisée scientifique ait publié sur le sujet. Par contre, la presse scientifique grand public, comme par exemple Science et Vie, s'y est intéressé de près. Et les journalistes, en général, se saisissent de ce sujet qui est un sujet de société. Ça serait une bonne idée de faire un sujet pour un journal vraiment très scientifique, qui se pose des questions très spécialisées. Le problème des journaux scientifiques, c'est qu'ils sont toujours très très spécialisés à découper l'humain dans une petite case et à publier que sur cette petite case. On va avoir, par exemple, le journal gastro-entérologie, le journal hépatologie, le journal, etc. C'est pas très montpelliérain de découper l'humain dans des petites cases et de s'intéresser qu'à une petite case. Hein. On rappelle la source historique de la médecine à Montpellier, c'est une médecine hippocratique qui existait, qui était quasiment le seul corpus qui existait, en tout cas la médecine grecque antique et améliorée par les Perses et les Arabes au Moyen-Âge. C'est le seul corpus qui existait comme base de l'enseignement au Moyen-Âge. Et cette pensée hippocratique, elle perdure à Montpellier, puisque quand vous entrez dans la faculté, vous avez les deux statues de Laperoni et de Barthès. Et Barthès incarne le néo-hippocratisme. Pendant le siècle des Lumières, il va faire la jonction entre Hippocrate et ce qu'il y a d'intemporel chez Hippocrate, qu'on peut encore conserver, qui est une vision globale de l'humain qui part de l'anatomie jusqu'à son ressenti sensible, mais aussi l'humain dans son environnement, notamment naturel. Et il fait le mix avec les nouvelles sciences, la biologie, la chimie, pour créer ce qu'on appelle le vitalisme. Et c'est le père de cette doctrine néo-hippocratique qui considère l'humain dans sa globalité. Et à droite de la statue de droite, donc à droite de Barthès, il y a le cadran solaire avec gravé le premier aphorisme d'Hippocrate et technémacré, l'art est long, qui signifie que cette faculté est profondément hippocratique. Et on parle d'ailleurs de Montpellier comme étant une cité hippocratique, au même titre que Salerne, par exemple. Donc, les journaux spécialisés auraient tout à gagner à s'intéresser à l'art de manière globale.
Est-ce qu'on peut considérer ça comme une conclusion ?
Oui, je trouve que c'est une belle conclusion.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, merci à Pauline Faure, qui était co-commissaire de l'exposition Éprouver l'inconnu, qui se déroule en ce moment au MoCo. Et merci à Gérald Schank, professeur d'université, praticien hospitalier, anesthésiste réanimateur et responsable du patrimoine historique de l'Université de Montpellier. J'espère vous retrouver tous les deux une autre fois. Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés et à la prochaine fois pour Il n'est jamais trop d'art sur un autre sujet, bien évidemment. Au revoir. Et voilà, c'est presque terminé pour aujourd'hui. Juste, je voulais vous dire que vous avez entendu un certain nombre de morceaux de musique choisis par Pauline Faure et Gérald Schank, qui étaient nos invités dans Il n'est jamais trop d'art. Donc, dans l'ordre d'apparition à l'antenne, vous avez entendu Space Oddity par David Bowie. Vous avez entendu The Knife, Is It Medicine? Et puis Fatboy Slim, Radioactivity. Et tout de suite, quelques titres choisis par notre programmateur. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi à 14h. Au revoir.